Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Les jardins de Versailles sont célèbres dans le monde entier. La création de cette merveille du patrimoine remonte à 350 ans tout juste. C'est ce que Franck Ferrand va nous raconter cet après-midi. Bonjour Franck.
Bonjour Fatima, bonjour à tous. On parle toujours du château de Versailles, mais le joyau d'architecture perdrait beaucoup sans le légendaire écrin de verdure qui l'entoure. Au XVIIe siècle, la création à partir de rien, de ses perspectives, de ses terrasses, de ses pièces d'eau, de ses bosquets, aura été la grande affaire du grand règne. C'est ce tour de force inouï que je vous propose de revivre.
Un tour de force signé André Lenôtre, si je ne m'abuse.
Mais oui, évidemment.
Alors, envoyez-nous vos questions, soit par internet ou sur notre site www.europe1.fr, soit par l'intermédiaire également de notre page Facebook et la page de l'émission Au cœur de l'histoire.
Et quelle histoire !
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Il y avait autrefois sur la terrasse des Tuileries, au pied du pavillon de Marsan, une maison assez simple qui a survécu à la Révolution et n'a été abattue qu'au moment où fut percée la rue de Rivoli. Sur un vieux plan du temps de Louis XIV, on y lit l'inscription suivante. Maison de Monsieur Lenôtre, avec un beau S. Ce n'est pas un homonyme dont on parle. En effet, cette bicoque, admirablement située, à défaut d'être luxueuse, était bel et bien la demeure parisienne du grand jardinier. Jardinier selon l'appellation de l'époque. Aujourd'hui, on dirait architecte paysagiste. C'est là qu'est mort Lenôtre. C'est là qu'il a vécu, en tout cas à chaque fois que ses talents n'étaient pas requis à tel ou tel endroit, à Vaud, à Chantilly, à Sceaux, à Meudon, à Saint-Cloud, Fontainebleau, Trianon et bien sûr Versailles. Et même, c'est probablement là qu'il est né le 12 mars 1613. Il collectionnait dans cette maison, Lenôtre, il collectionnait les œuvres d'art et pour que tout le monde pût en profiter, en son absence, il laissait pendre ostensiblement la clé de la maison à un clou au dehors. C'est du moins ce que voudrait une tradition familiale rapportée par son arrière-petit-neveu. L'arrière-petit-neveu en question, c'est le célèbre écrivain Gosselin Lenôtre, le G Lenôtre de nos lectures d'enfance, considéré comme le pape de la petite histoire et auquel nous aurons l'occasion assez bientôt de consacrer une émission. Cette bonhomie du grand jardinier lui aura valu son surnom. De son vivant, on appelait André le bonhomme Lenôtre, par souci de souligner le mélange singulier de candeur, de simplicité et de caractère en même temps qu'il manifestait avec tout un chacun, y compris avec le roi lui-même. En présence de Louis XIV, dont la majesté innée intimidait jusqu'au maréchaux de France, eh bien, André Lenôtre reste toujours lui-même. Le monarque ne lui en impose guère, pas plus du reste que le pape lui-même. On connaît l'anecdote racontée par Saint-Simon. En 1679, Lenôtre a été appelé à Rome en consultation auprès du pape Innocent XI, qui aimerait modifier le tracé de certains jardins pontificaux. Les deux hommes vont passer ensemble un long moment à regarder les plans, à échanger leurs idées, etc. Et à la fin, Lenôtre déclare « Ah, je ne me soucie plus de mourir puisqu'à présent j'ai devisé familièrement avec les deux plus grands hommes du monde, votre sainteté et le roi mon maître. » « Oh, il y a bien de la différence, répond le pape. Votre roi est un grand prince victorieux, moi je ne suis qu'un pauvre prêtre. Il est encore assez jeune et je suis vieux. Bah, bah, mon révérend père, rétorque Lenôtre avec sa bonhomie coutumière, vous vous portez bien, vous enterrerez tout le sacré collège. » On imagine la tête des cardinaux alentour. En attendant, le pape éclate de rire et Lenôtre, le voyant, en fait autant, il lui saute au cou pour l'embrasser de bon cœur. Vous imaginez le bruit que peut faire cette entorse au protocole. On ne parle que de ça à Rome, mais aussi à la cour de Versailles, où un duc va parier 1000 louis qu'il s'agit d'une rumeur, d'une baliverne sans fondement. Enfin quoi, Lenôtre n'est tout de même pas allé jusqu'à embrasser le pape. « Je serai vous, je ne parierai pas, » dit le roi. « Quand je reviens de campagne, Lenôtre m'embrasse bien, alors pourquoi pas le pape ?» Du reste, quand il est à Trianon, Louis XIV fait donner au vieux jardinier un logement tout près du sien et dont les chambres communiquent par tout un jeu de portes et de couloirs, de sorte que, en laissant les portes ouvertes, ils peuvent deviser tranquillement le soir avant de s'endormir. Eh bien, malgré ses privautés extraordinaires et même tout à fait uniques, le jardinier ne se laissera jamais tourner la tête. Ainsi, quand Louis XIV prétend lui donner des lettres de noblesse et les armoiries qui vont avec, « Oh, j'en ai déjà de belles, » répond le nôtre, « trois limaçons couronnés d'un trognon de chou. » Sauf que cette fois, le roi le prend au mot et ce sera désormais l'écusson officiel de la famille Le Nôtre. On sait que par ailleurs, Louis XIV avait autorisé son ami jardinier à porter sa médaille de l'ordre de Saint-Michel, normalement réservée aux roturiers et qui se porte donc avec un cordon rouge, de la porter avec le cordon bleu de l'ordre du Saint-Esprit, beaucoup plus prestigieux, ce dont le bonhomme ne parut tirer aucune vanité. Mais du reste, vous l'avez compris, Le Nôtre n'était pas vaniteux. Pour un sou. Quand André Le Nôtre ça, ce qu'on vient d'entendre, ce sont bien entendu les accents d'une des symphonies pour les soupers du roi de Michel Richard de Lalande. C'est en l'occurrence l'air d'Encelade. Je vous disais que quand André Le Nôtre s'est senti trop vieux pour continuer d'exercer sa charge, il est vrai, tout à fait accablante, il a demandé l'autorisation de se retirer et il est venu vivre ses derniers jours auprès de son épouse, Françoise Langlois Le Nôtre, qui était une vieille femme douce, digne, bonne ménagère, où cela, mais évidemment dans la maison des Tuileries dont je vous parlais tout à l'heure. Et comme les Le Nôtre, à cette époque, ont déjà perdu leurs trois enfants, eh bien, ils adoptent, pour ainsi dire, leurs neveux et nièces et constituent une nouvelle famille. C'est ainsi qu'en 1698 encore, le voyageur Lister pourra apercevoir voir celui qu'il nomme le vieux monsieur de beaucoup de talent se promenait vêtu de son inusable juste au corps brun à boutons dorés dans les rues du centre de Paris. Alors que fait-il le bonhomme Le Nôtre? Qu'est-ce qui le pousse à sortir encore de chez lui par un après-midi d'hiver? Eh bien, vous l'avez deviné, c'est la recherche de nouveaux bibelots, de petits objets d'art qu'il ne cessera jamais de chiner en vue d'enrichir sa collection. On imaginerait Le Nôtre retraité passant son temps à tailler des rosiers ou des haies? Eh bien, pas du tout. Sa passion à lui, c'est d'écumer les brocanteurs et les antiquaires à la recherche de trésors. Du reste, cette modeste mais savante collection, il la lèguera au roi, figurez-vous. Beau signe d'amitié, beau témoignage de gratitude en septembre 1693. Signe de respect peut-être aussi. Le Nôtre lègue donc au roi tout ce qu'il considère comme des chefs-d'œuvre. Il faut dire qu'il y a des chefs-d'œuvre dans cette collection, puisqu'y figure notamment le célèbre port au soleil couchant du Lorrain. C'est aujourd'hui devenu, vous savez, un des clous du musée du Louvre. En effet, ce tableau était devenu d'emblée peut-être l'un des plus beaux tableaux de la collection de Louis XIV. Je parlais d'amitié, de respect, de gratitude aussi peut-être. Tout ce qu'a été Le Nôtre, il a été par le bon vouloir de Louis XIV. Et c'est bien la collaboration entre ce prince et ce commis qu'il faut évoquer. C'est ce que nous allons faire dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et en ce lundi de Pâques, Franck Ferrand vous propose une balade à Versailles, côté jardin.
Dévouement d'André Le Nôtre à la famille royale aura été une tradition de famille. Il faut savoir que son grand-père était maraîcher à Paris dans les années 1600 et que c'est ce qui lui a valu de fournir des semences et du fumier à la cour. Quand je dis à la cour, à l'époque, vous pouvez entendre à Marie de Médicis. Ça lui a permis de tisser des liens avec les jardiniers royaux et de devenir peu à peu jardinier lui-même. Ça lui permet aussi de caser son fils, donc le père d'André, aux Tuileries, comme jardinier du roi, et de marier ses filles, l'une au pépiniériste du roi, l'autre au garde des orangers de Sa Majesté. Autant dire que dans la famille Le Nôtre, désormais on sème, on taille, on sarcle, on arrose du lever au coucher du soleil, mais pour le roi, j'allais dire quasiment par le roi. C'est un véritable sacerdoce qui s'exerce dans cette famille. à tel point que c'est une catastrophe lorsqu'André, où il atteint environ 20 ans à cette époque, décide de choisir une autre carrière et de se faire admettre dans l'atelier du grand peintre Simon Vouet. Il faut vous dire que le nôtre a depuis très tôt développé un grand talent de dessinateur. Il a le sens notamment de l'ombre, du modelé, et s'il n'est pas très doué pour la peinture, il est en revanche le maître du trait. C'est dans l'atelier de Vouet qu'il va faire la connaissance d'un certain Lebrun, ce qui plus tard aura évidemment de grandes connaissances. Il développe déjà un sens aigu de l'harmonie, qu'on ne s'y trompe pas. Le nôtre est d'abord, il restera toujours un dessinateur. Et celui que nous voyons, nous aujourd'hui avec le recul des siècles, comme un jardinier, est d'abord celui qui dessine le paysage. À la réflexion, il n'en fait pas moins machine arrière. En 1635, il a 22 ans. Finalement, le nôtre accepte d'entrer comme jardinier de Monsieur Frère du Roi, le frère du roi Louis XIII, en l'occurrence donc Gaston d'Orléans. Il réfléchit beaucoup sur les limites des jardins dits à l'italienne de l'époque. Tout cela lui paraît trop limité, trop clôturé. Il voudrait ouvrir, il voudrait créer des perspectives dans ces jardins. Voyez déjà, en 1637, Jean le Nôtre, donc son père, obtient pour son fils la survivance de sa charge de premier jardinier du roi. Autant dire que c'est un long apprentissage qui commence, mais un apprentissage, encore une fois, constamment fondé sur le dessin. Ça, c'est la singularité de le Nôtre, André. C'est sa caractéristique essentielle, cette dimension de dessinateur, en fait. Ainsi, en décembre 1643, il est nommé, je cite le titre qui est très important, « dessinateur des plans et parterres des jardins de Sa Majesté ». C'est donc bien un dessinateur qu'on emploie. 1643, ça veut dire que le roi dont on parle, décembre, c'est le petit Louis XIV, puisque Louis XIII est mort en mai de la même année. En fait, celle qui gouverne, c'est la régente Anne d'Autriche. C'est elle qui juge, c'est elle qui décide, et avec son bon goût baroque espagnol, c'est elle qui va dans les jardins imposer ses dessins de lambrequins, de broderies qui bientôt feront la gloire des parcs parisiens. Il y a là des années un peu grises pour le nôtre. En même temps, ce sont celles, je vous dis, non seulement de l'apprentissage, mais du perfectionnement, du mûrissement d'intuitions pourtant déjà anciennes à l'égard des parterres, des jardins, du paysage, de l'espace même. Le nôtre observe, il constate, il s'informe, il lit. Il lit notamment, on sait ça, il avait obtenu de se procurer l'ouvrage posthume de Claude Mollet, Le théâtre des plans et des jardinages. Là, on est dans le cœur même de l'inspiration d'André le Nôtre. Et puis, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, André le Nôtre fait carrière. Au printemps 1657, il achète la charge de conseiller du roi et contrôleur général des bâtiments. Entre parenthèses, ça m'amène à faire trois réflexions, ça. D'abord, vous voyez la force des réseaux familiaux dans les carrières que l'on peut faire à la cour à cette époque-là. Ensuite, vous voyez à quel point l'univers social encadre littéralement, porte certes, mais en même temps contraint les grands créateurs du XVIIe siècle. Et puis, enfin, vous voyez quels sont les liens étroits qu'on établit à cette époque entre bâtiments et jardins. On a pour habitude de considérer le jardin comme un écrin de verdure autour du joyau bâti. Eh bien, en vérité, c'est plus que ça. Le jardin devient, sous Louis XIII, sous Louis XIV, il devient littéralement la moitié de l'habitat. Finalement, et au risque de faire bondir quelques érudits trop pointus, je dirais que le nôtre a déjà plus de 45 ans quand il produit son plus grand chef-d'œuvre. Ce chef-d'œuvre, naturellement, c'est Vaux-le-Vicomte. Le jardin de Vaux-le-Vicomte, donc qui entoure la plus belle maison de France incontestablement, ont beaucoup évolué depuis le nôtre. Les frères Duchesne sont passés par là, les jardins ont changé un peu de physionomie, les parterres ont été complètement modifiés, mais la structure d'ensemble, elle, n'a pas changé et tout l'art de le nôtre est déjà là. Il y a les terrassements, les perspectives, les plans d'eau, les parterres et leurs broderies, tous ces bosquets. Ce qu'il y a de sidérant à Vaux et de génial, c'est surtout le fameux renversement de perspective. Vous savez que le terrain et le site ne permettent pas les perspectives ouvertes. Eh bien, quand vous arrivez au-delà du canal transversal, au bout de la perspective, au niveau de ce qu'on appelle l'Hercule Farnèse, vous retournez et là, vous découvrez sidéré une nouvelle perspective encore plus merveilleuse, mais cette fois-ci, comme si vous étiez dans une loge, comme si vous étiez au théâtre, une perspective sur le château lui-même, ses dépendances, ses grands arcs et portiques. Pas de doute sur la question. Ici même, à Vaux-le-Vicomte, monsieur Le Nôtre vient de donner jour à ce qui va faire Florès, à ce qui va être copié partout pendant 2 siècles et dans le monde entier. Il vient de donner naissance au grand jardin à la française.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et aujourd'hui, jusqu'à 14h30, Franck Ferrand vous raconte l'histoire des jardins les plus célèbres de France, ceux du château de Versailles.
Alors on dit toujours que les grands jardins à la française ont quelque chose d'ennuyeux, de monotone. L'ennui naquit un jour de l'uniformité, n'est-ce pas? Vous connaissez le vers de La Fontaine. Eh bien, cette idée que l'on se fait, cette idée répandue sur le grand jardin français, cette idée est un contresens et vous allez voir que ce n'est pas le seul. On considère généralement qu'un grand jardin à la française, c'est un jardin complètement vide. Eh bien, pas du tout. En réalité, ce sont des jardins surchargés. On les imagine uniformes comme ça. Pas du tout. Ils sont faits pour créer la variété. On s'imagine que tout s'y trouve attendu alors qu'ils ménagent partout des surprises. Bref, nous sommes, lorsque nous parlons de cette création qui est peut-être le plus beau legs de ce qu'on appelle le grand siècle, du siècle de Louis XIV, nous sommes au cœur d'un vaste malentendu. En vérité, lorsque vous vous promenez dans un jardin à la française, vous vous rendez compte que tout est rythmé et qu'on s'est amusé au contraire à multiplier les plans pour que, par des effets d'optique sans cesse renouvelés à la moindre promenade, vous voyez autour de vous le paysage changer. Vous avez ces rideaux de charme. Vous savez, le charme, ce sont ces espèces d'arbres à toutes petites feuilles qui permettent de faire de véritables rideaux de verdure, des allées de marronniers, des boquetaux de chênes et d'autres espaces. Tout ça vient rythmer l'espace. Le Nôtre va porter à sa perfection l'utilisation de 3 éléments qui sont véritablement, on peut dire, les 3 piliers d'un jardin français. D'abord, les taupières. Les taupières, ce sont, vous savez, ces buis, ces ifs qui sont taillés parfois d'une façon extraordinairement raffinée, sophistiquée, pour leur donner toutes sortes de formes très étonnantes. On peut pousser l'art des taupières jusqu'à des sommets de raffinement. C'est ce qui arrivera sous Louis XIV, notamment dans les jardins de Marly, qui de ce point de vue constituent une sorte de modèle indépassable. Les œuvres taillées par les jardiniers doivent pouvoir répondre aux œuvres d'art, aux véritables statues qui, elles, ont été installées dans ces jardins, comme on aurait meublé un salon, si vous voulez. Il faut qu'elles leur répondent, il faut quasiment qu'elles rivalisent avec elles. D'autre part, 2e pilier, les plans d'eau. Ça, c'est fondamental. Les bassins, les canaux, les fontaines. Il faut que ces plans d'eau, en dehors de leur dimension utilitaire, naturellement, contribuent à rythmer l'espace. Ils ont l'avantage d'illuminer les jardins. Ils sont, si vous voulez, comme des espèces de miroirs de clarté entre les masses plus sombres formées par les végétaux et par les arbres. Et puis, 3e et fondamental pilier, au cœur même de ces plans d'eau, les jeux d'eau. Car il ne suffit pas de créer des miroirs et des surfaces d'eau planes. Il faut aussi, ces eaux, être capable de les faire jaillir et de les faire jaillir sous la forme de toutes sortes de jets différents qui viennent animer les perspectives et égayer les bosquets. Alors, puisque cette émission est dédiée à Le Nôtre et plus généralement à Versailles, laissez-moi me faire l'avocat du grand jardin français. Je voudrais vous faire toucher du doigt ce qu'il y a de proprement révolutionnaire dans le génie de ce bonhomme. Ah oui, c'est vrai que Le Nôtre, comme ça, ne payait pas de mine. C'est vrai qu'il faisait des gaffes. C'est vrai qu'il se présentait devant le roi en habit de gros serge ou de coutil et en gros souliers. Il n'était pas du genre à porter les talons rouges de la cour, certes. Mais André Le Nôtre est un véritable génie. Il est cet homme incroyable qui s'approprie le paysage, qui le transforme, qui en fait muter les points, les lignes, les plans, les volumes.
Le nôtre crée des perspectives multiples, ce qui permet de créer un rythme comme à Saint-Germain. Ça crée des perspectives totalement étoilées, par exemple. Des perspectives qui sont infinies parce qu'elles ouvrent sur la campagne sans que le regard jamais heurte aucun obstacle, presque à l'infini. Dans ces perspectives, il s'est installé l'harmonie. Je vous ai dit qu'il était dessinateur, qu'il avait fait ses classes en quelque sorte chez des artistes du dessin. Eh bien, le nôtre a conservé ce sens de l'harmonie et le plus bel exemple qu'il en ait donné, ce sont probablement les jardins qu'il dessinera pour la maîtresse de Louis XIV, Madame de Montespan, à Clagny. Le nôtre maîtrise à tel point le dessin qu'il est capable de le constituer en anamorphose. Une anamorphose, c'est un dessin qui est totalement déformé lorsque vous le regardez vu du ciel, mais qui, lorsque vous êtes devant lui, par un jeu de perspectives, par le jeu des points de fuite, finit par recomposer un dessin normal. Eh bien, ce véritable tour de force de l'anamorphose, c'est le nôtre qui l'instaure dans le paysage et dans le jardin. Et puis, je vous ai parlé de variété. Regardez par exemple le parc de Sceaux, qui a été créé à l'époque pour le duc et la duchesse du Maine, donc un enfant légitimé de Louis XIV et son épouse. Là, vous avez un système de terrasses, de rampes, de paliers, de degrés qui modèlent le relief, qui littéralement le font chanter. Là-dessus, le nôtre joue avec les masses végétales. Il crée des bosquets totalement inattendus, habités par les taupières, illuminés par les plans d'eau, animés par les fontaines. Bref, tous ces décors à la le nôtre transforment en profondeur l'idée que jusqu'à ce bonhomme, on avait pu se faire du paysage. Mais tout ça, il le fait avec la mesure, avec l'ordre, avec la maîtrise, avec la symétrie et puis surtout avec ce sens suraigu de l'élégance qui sont donnés en partage à cette époque du grand siècle. Vous savez, c'est assez fascinant lorsque vous regardez les maisons construites à cette époque, mais même si vous allez plus loin, lorsque vous regardez par exemple les ponts ou les fontaines dont on a embelli les routes ou les villes de l'époque du grand siècle, vous vous rendez compte que la pierre et le végétal autour d'elle et l'ensemble de la création donnent le sentiment de chanter dans une sorte d'harmonie presque inaccessible. D'où vient le génie des constructions de l'époque ? Il vient sans doute d'un savoir-faire que nous ne pourrons plus jamais atteindre, qui était celui de générations, de dizaines de générations de commis qui s'étaient formés par l'apprentissage, par l'héritage de la génération précédente. Ce n'est pas un hasard quand vous regardez les dates. Vous savez, ce qu'on appelle le grand siècle, c'est le règne de Louis XIV. Ça va de 1661 à 1715. Or, si vous regardez l'époque de la création des grands jardins de le nôtre, ça va précisément de 1659 à 1700, c'est-à-dire que les deux périodes se recoupent littéralement. Au fond de lui, à titre personnel, le nôtre est resté André, si je puis dire, à la fois artisan et homme de la terre, et s'il a l'ambition dévorante même d'être et de rester le premier dans son domaine, il n'essaie pas de se hisser hors de ce domaine. Son assurance tient à la maîtrise qu'il a su acquérir de son art et c'est là qu'on peut regretter que le nôtre lui-même n'ait pas jugé utile de nous livrer la quintessence de son savoir et de son expérience. Ce savoir, finalement, c'est maintenant comme si chaque génération de jardiniers se devait de le redécouvrir pour elle-même. Pourquoi une telle variété dans le choix des essences d'arbres à planter, me direz-vous ? Eh bien, parce qu'il faut tenir compte de la nature, du climat, du sol, de l'irrigation, de l'exposition au soleil, au vent, etc. Il n'y a donc pas de règle absolue dans ce domaine. Autre question, pourquoi possède-t-on si peu de plans de la main de le nôtre, lui qui était si bon dessinateur ? Eh bien, parce que cet art-là se fait sur le tas, en grandeur réelle, par tâtonnements successifs. Il m'arrive d'errer, vous savez, comme une ombre, parmi les fantômes encore embrumés de Versailles, par certains petits matins du printemps. Là, c'est la bonne période pour faire ce genre de promenade. Eh bien, on peut dire que dans ces moments-là, ma gratitude pour le nôtre ne connaît quasiment pas de limite. Vous êtes là, vous admirez, vous contemplez, et tout votre être dit, sans qu'il soit besoin de prononcer une parole, « Merci, merci, monsieur le nôtre ».
Juste après le flash de 14h, nous recevrons celle qui a écrit la vie des grands jardiniers de Versailles, Patricia Bouchenaud-Deschamps, et elle sera avec celui qui pourrait être son modèle actuellement, le jardinier en chef des jardins de Versailles, Joël Cottin.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Le grand historien américain du château de Versailles, William Newton, vient de publier un nouvel ouvrage qui, après les intérieurs de Versailles, vous savez, Newton est cet homme qui a étudié point par point, appartement après appartement, les différents occupants du château. Après s'être donc intéressé aux intérieurs, le voilà qui nous ouvre de nouveaux horizons sur les extérieurs. Et quels extérieurs ? Pour compléter mon point de vue sur le nôtre et parler des jardins de Versailles, j'ai réuni cet après-midi deux très grands connaisseurs. Joël Cottin est tout simplement le jardinier en chef du château de Versailles. Ça ne s'invente pas. Merci Joël Cottin d'être des nôtres. Et merci à Patricia Bouchenaud-Deschamps qui, non seulement a, il y a quelques années, publié un très bel ouvrage sur Henri Dupuis, jardinier du roi, mais a préfacé l'ouvrage de Newton. C'est vous qui nous faites, en quelque sorte, l'antichambre de cet ouvrage. Ce qui est très intéressant, Patricia, c'est que vous nous parlez de tout ce que l'historien américain a négligé, puisque lui commence son propos à la mort de Louis XIV et il nous emmène jusqu'à la toute fin de l'Ancien Régime, jusqu'à la Révolution. Vous nous parlez de ce que vous appelez l'âge d'or des jardins. En quoi est-ce que cette deuxième partie du règne de Louis XIV constitue-t-elle pour les jardins un véritable âge d'or ?
Alors, Newton a eu le courage de s'attacher à une partie moins connue de l'histoire des jardins, qui est le XVIIIe siècle.
Qui est notamment le règne de Louis XV.
Qui est le règne de Louis XV et celui de Louis XVI. L'âge d'or des jardins de Versailles, et l'âge d'or des jardins en général, c'est véritablement le XVIIe siècle, la seconde partie, avec au sommet un roi qui eut une véritable passion pour les jardins, Louis XIV.
Alors, on connaît la passion de Louis XIV, qui transpire notamment dans sa célèbre manière de montrer les jardins de Versailles. On sait à quel point le roi a consacré non seulement beaucoup de temps, d'énergie, d'argent, mais de volonté à ces jardins, non seulement de Versailles, mais aussi ceux de Marly, etc. Est-ce que cette passion était partagée par d'autres princes et au-delà, par des particuliers ?
Alors, c'est une véritable fureur que de planter à l'époque. Alors, qui a entraîné soyons clairs, tout le monde a en mémoire la grande fête de Vaux, Fouquet, à l'époque, tous les financiers ont des beaux jardins. À partir du moment où un roi, Louis XIV, va décider d'y consacrer des moyens, eh bien, tout va passer à une autre échelle. Et c'est lui, véritablement, qui va être le chef d'orchestre d'un ensemble absolument magistral qui va se mettre véritablement en place et qui va donner au jardin, ces caractéristiques qui vont être conservées jusqu'à nos jours et que l'on appelle pompeusement le jardin français.
Le frère du roi, monsieur, avait lui-même à Saint-Cloud un des plus beaux jardins d'Europe.
Exactement, avec un nombre de jardiniers qui, à la fin du règne de Louis XIV, dépassait, était le double de celui de Louis XIV. C'était un jardin absolument extraordinaire. Son cousin, le prince de Condé, avait Chantilly. Ce sont partout des très grands domaines avec des très, très, très belles réalisations. Non seulement les princes, mais les ministres. Louvois, Colbert avaient leur jardin. Les jardins qui sont tous à l'échelle de parcs, élaborés sur des générations d'acquisition de terrain. Ça ne se fait pas en un jour d'une baguette magique. C'est le résultat d'acquisition de terres sur des hectares, des hectares et des hectares et des hectares pour pouvoir créer ces jardins à l'infini avec des allées qui font des kilomètres et des kilomètres, une chose que l'on n'a jamais vue jusque-là.
Je disais tout à l'heure que quand je suis arrivé à Paris pour faire mes études, j'ai commencé par visiter tous ces grands domaines de l'Île-de-France. Et à chaque fois, on me disait, les jardins sont de Le Nôtre. Mmh. Il était à ce point incontournable, André Le Nôtre ?
Alors, André Le Nôtre, d'abord, est à la fois contrôleur général des bâtiments, dessinateur des jardins du roi et jardinier des Tuileries. Il est donc authentiquement un jardinier avec un savoir-faire particulier et il est à la tête de l'ensemble des jardins. Donc autour de lui, il a toute une équipe qui
mais
va travailler.
Mais quand on dit les jardins de Sceaux, par exemple, sont de Le Nôtre, qu'est-ce qui est de lui ? Les plans, la réalisation même des jardins, les terrassements, quelle est la patte ? Où est la patte du maître ?
Alors, ça va dépendre des périodes, puisque Sceaux ne s'est pas fait en une seule fois, et donc Le Nôtre autre va arriver à une période particulière pour tracer une partie de jardin qui est parfaitement identifiée maintenant et on reconnaît parfaitement sa patte.
Joël Cottin, vous qui êtes aujourd'hui, on peut dire, à la place de Le Nôtre, est-ce que vous le considérez un peu comme un saint patron ? Est-ce qu'il reste, 3-4 siècles plus tard, est-ce qu'il reste le maître des jardiniers français ?
Bah, je pense, évidemment, on a la chance de travailler à Versailles et puis de travailler derrière Le Nôtre, c'est quand même un grand privilège. Donc, le mot privilège à Versailles veut dire beaucoup de choses. Donc, moi, je suis content d'avoir fait ma carrière à Versailles, évidemment. Donc, aujourd'hui, Versailles, si on peut dire, on restitue du Le Nôtre aujourd'hui. Mais Le Nôtre, c'est la volonté d'un roi et la rencontre d'un bon jardinier. Je pense que sans ça...
Oui, c'est vraiment une alchimie de ces deux personnages. C'est Louis XIV plus Le Nôtre.
Voilà, je pense que c'est ça.
Ce qui est extraordinaire à Versailles, c'est que contrairement à un très grand nombre d'autres domaines, les plans n'ont pas été refaits au XIXe. On a beaucoup de grands parcs à la française qui ont été totalement revus, évidemment, par un certain nombre d'architectes dont certains sont célèbres. Mais pour ce qui est de Versailles, on est vraiment encore sur les plans de Le Nôtre qui ont été remaniés au XVIIIe, un petit peu transformés au XIXe, mais qui pour 90% sont encore là.
Oui, on a une bonne documentation sur Versailles, les documents historiques sont là, les comptes du roi sont là. Donc à chaque fois qu'il y a restitution, je dis bien restitution, donc ça veut dire qu'on refait pratiquement à l'identique de Le Nôtre. Bon, pas tous les bosquets, on n'aura pas la chance par exemple de refaire le bosquet du labyrinthe parce que c'est trop complexe, mais dans 80% des cas, Versailles reste la patte de Le Nôtre.
Ce qu'on refait, c'est toute la structure, je pense notamment à tout le système des treillages, on restaure les pièces d'eau, on remet en place les objets d'art. Pour ce qui est du végétal, quelle est la part du dessin initial de Le Nôtre que vous respectez encore aujourd'hui ? On a quasiment plus de charmilles aujourd'hui à Versailles, enfin de moins en moins.
Alors si, on a quand même le retour des charmilles depuis 20 ans. Donc là, depuis 20 ans, on s'est employé sur une restitution correcte, importante. Bon, notamment grâce aux deux, enfin je ne vais pas dire grâce, mais sous l'effet par contre, des deux tempêtes qu'on a eues, celle de 90, du samedi 3 février 90, et celle du dimanche 26 décembre 99, qui a goûté quand même la perte de plus de 10 000 arbres. Donc on a décidé là de reprendre une vraie replantation, la troisième. Donc, et celle-ci va quand même rentrer dans le cycle de Le Nôtre, donc retour des charmilles.
Alors il faut expliquer d'ailleurs ce que sont les charmilles pour ceux qui n'auraient pas la main verte.
Voilà, deux plantes magnifiques à Versailles, on va dire. C'était l'orme qui a complètement disparu avec la maladie de la graphiose. Donc là, tous ces grands aliments qu'on a aujourd'hui ne sont plus composés d'orme, mais de tilleul. Donc, et la charmille, elle, aujourd'hui, c'est 40 km à Versailles de lisière de charmille.
C'est-à-dire ce que vous appelez des lisières de charmille, pour parler de façon vulgaire, pardon, j'assume, ce sont des rideaux végétaux, tout simplement. Voilà. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir un fond de verdure qui est tellement bien taillé qu'on a l'impression d'un écran, d'un rideau.
Voilà. Et je vous invite, j'invite tout le monde à passer au mois d'avril à Versailles, parce que c'est là qu'on a la pousse de la charmille, on l'a vu tout à l'heure.
Ah oui, c'est la belle saison. Vous êtes peut-être en voiture, il est possible que vous nous écoutiez en route pour Versailles.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1,
plongé au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Avec Patricia Bouchenaud-Deschin et Joël Cottin, jardinier en chef de Versailles. Alors Patricia, lorsqu'on lit cet ouvrage de William Newton, on se rend compte que la grande difficulté pour les successeurs de Louis XIV, ça aurait été d'entretenir cette espèce de chose gigantesque, cette création quasiment impossible de Louis XIV. Et avec le temps, évidemment, les moyens vont s'amenuisant.
Oui, les finances de l'État sont dans un état de plus en plus difficile et donc on va avoir de moins en moins de moyens pour entretenir un jardin. Pourtant, on se rend bien compte en lisant l'ouvrage de Newton que la priorité sera quand même donnée au jardin. Quand le petit roi va quitter Versailles et ne revient que 7 ans après, eh bien, la première chose qu'il va faire, c'est aller voir ses jardins de son aïeul. Et on connaît cette phrase, cette très jolie petite phrase où il dit « Je n'aime pas défaire ce que mes pères ont fait ». Eh bien, c'est exactement l'attitude qu'il aura avec Versailles. Alors, ça ne l'empêchera pas de créer. Mais lui, contrairement à Louis XIV, ce qui l'intéresse, c'est la science. Donc il va créer le jardin botanique de Louis XV. Le grand jardin, c'est vrai que c'est un jardin impossible à entretenir. C'est un jardin où on se rend compte, dans l'ouvrage de Newton, on tape beaucoup sur les jardiniers en chef. On les critique parce qu'ils ne plantent pas assez, etc., etc. Mais qu'est-ce qui se passe par derrière? Il faut simplement voir que pendant 10 ans, ils ne sont pas payés. Or, avec leur salaire, ils devaient, leurs salaires paraissent très importants, mais ils devaient payer sur leur salaire à la fois les garçons qui devaient entretenir les jardins et payer les plantes.
Oui, c'est ça.
Alors, s'ils ne sont pas payés, on ne voit pas comment ils peuvent entretenir ces jardins. Donc il va y avoir tout un système qui va se mettre en place, un jardin qui vieillit avec des arbres qui tombent, donc il faut les entretenir,
les
arracher,
etc. Ils sont un peu comme
des
entrepreneurs, hein, voilà. Les jardiniers.
Alors, ils sont ils deviennent des entrepreneurs,
en fait, oui.
Ils sont des maîtres d'œuvre, ce sont des chefs d'entreprise.
Ça, hein, voilà.
Ce sont des chefs d'entreprise et qui vont avoir de moins en moins les moyens d'entretenir. Et donc la décision de replanter va se poser très vite sous Louis XV. Et quand Louis XVI va prendre cette décision courageuse, eh bien ça fait déjà 10 ans que l'on traîne, que l'on tire, etc. Il va falloir le refaire.
Il y aura 2 autres replantations, celle du règne de Napoléon III, voilà. Et puis la replantation récente dont nous parlions, consécutive à cette
dévastatrice.
Les deux grandes tempêtes de 90 et 99. Est-ce que cet entretien tellement difficile est toujours un casse-tête aujourd'hui, Joël Cottin ? Vous héritez là un domaine qui est énorme à tenir. Vous êtes combien déjà ?
Alors, c'est moi et une équipe. Hein.
Oui.
Donc, on est beaucoup à travailler vers ça. Je ne suis pas tout seul. Aujourd'hui, évidemment, le jardin, ce n'est pas la seule chose. Il y a tous les composants dans le jardin. Il y a l'eau, il y a la sculpture, il y a les treillages qui forment toutes les allées. Hein. Donc c'est un travail sans cesse. Restituer un jardin, c'est simplement une courte période, mais l'entretenir, c'est pendant des années.
C'est ça.
Et donc c'est des années où il faut toujours...
C'est presque un travail de stratégie, on peut dire.
Ah, c'est une stratégie qu'il faut mettre en place, parce que le jardin à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans et plus, ça ne sera jamais la même chose. Donc il faut essayer de mettre les moyens pour chaque année, voilà, et le programmer un petit peu. Donc,
sur l'ensemble du domaine, vous êtes combien pour vous occuper de tout ça ?
Alors, on est à peu près une 50aine de jardiniers fixes et on prend la moitié, enfin, en plus, 50 personnes.
De façon saisonnière.
Voilà, de façon saisonnière, plus des entreprises.
Mais il faut dire qu'il faut accueillir combien de fois plus de visiteurs par rapport au règne de Louis XIV ?
Voilà, le jardin à l'époque du roi, c'était en gros 3000 personnes à l'année. Aujourd'hui, on est sur 7 millions. Donc vous voyez, c'est pas la même échelle.
Et ça fait beaucoup de dégâts, évidemment.
C'est pas que ça fait beaucoup de dégâts, mais nous, on se doit de présenter un jardin du mieux qu'on peut le faire.
En état.
En état, toujours. Et donc là, si les gens sont là tous les jours...
Et en respectant ce qui fait la nature même d'un grand jardin à la française. C'est-à-dire pas seulement des beaux points de vue, des perspectives et des terrassements très réguliers, mais aussi des surprises, une variété, un rythme qui font la nature même de cette création-là.
Chaque bosquet à Versailles est une surprise. Mais si on parle, par exemple, de l'orangerie de Versailles, c'est la seule au monde en service, et là aujourd'hui elle compte 1500 plantes en caisse, dont 900 orangers. Donc c'est la seule au monde.
Certains très anciens.
Donc c'est vraiment un point de vue formidable, et c'est une collection formidable qu'il faut beaucoup entretenir tous les jours. Donc ça, c'est simplement une partie de 3 hectares de Versailles. Vous voyez, après, tous les bosquets. Donc on a 14 bosquets qu'il faut soigner, entretenir comme il faut. Après, on a tous ces alignements.
Ce qu'on appelle les bosquets, ce sont les salons de verdure, en quelque sorte, qui, invisibles depuis les perspectives principales, deviennent des ravissements dès lors qu'on y pénètre.
On
c'est
découvre,
le concept
on découvre,
même.
Voilà.
L'invention est vraiment de Le Nôtre ou c'est une adaptation de...
Je pense que c'est une adaptation.
Oui.
Je
ça
pense
existe.
Qu'il y a...
Ça existe
on va
en
dire,
Italie, notamment.
Voilà, l'Italie nous a donné beaucoup de choses. Et la France aussi, et puis toute l'Europe. Donc évidemment, Le Nôtre le met en valeur à Versailles. Et aujourd'hui, la chose superbe, c'est de l'avoir encore aujourd'hui et de le restituer comme on le fait aujourd'hui.
Est-ce qu'aujourd'hui, Patricia, vous considérez que les gens qui viennent à Versailles viennent autant pour les jardins que pour le château lui-même ?
Évidemment. Oui, les jardins de Versailles sont un modèle
de plus en plus,
qui a été véritablement mais exporté partout dans le monde. Et le jardin exerce une véritable fascination auprès du public. Qui en plus, les jardins sont très à la mode parce que l'homme a besoin de se retrouver avec la nature. Et Versailles, paradoxalement, on a beau dire que c'est une nature maîtrisée, c'est une nature qui fascine et qui continue à fasciner parce qu'elle, dans sa maîtrise, elle a quelque chose de fascinant.
Oui, nous avons vu tout à l'heure dans la première partie que c'est bien une nature nature accompagnée, finalement, et non pas... Elle est domestiquée, mais elle est domestiquée avec amour et non pas rigidité. Ça, c'est, quand on a compris ça, je pense que...
Accompagnée, c'est bien le mot.
C'est ça, je pense que accompagnée. Ça... Je voudrais, avant que nous quittions, citer un certain nombre d'ouvrages qui sont parus récemment sur Versailles. Alors, il y a littéralement en ce moment une avalanche éditoriale sur le château et les jardins de Versailles. Je ne pourrais donc pas tout citer, mais j'ai retenu le très bel album de Pascal Bonafou au Chêne, qui s'appelle Les coulisses de Versailles, et qui est très somptueusement illustré, notamment. Ça fait partie des plaisirs que l'on peut se faire. Et puis, par deux spécialistes que nous connaissons bien ici et que nous saluons chaleureusement, par Mathieu Davina et Raphaël Masson, qui sont on peut dire qu'ils sont issus du centre de recherche de Béatrix Saul, le Versailles pour les nuls, dans lequel vous avez littéralement à peu près tout ce qu'il faut savoir sur Versailles sans avoir besoin de vous plonger dans les ouvrages de Patricia Bouchenaud-Deschamps ou Franck Ferrand.
Finalement. Exactement.
C'est ça. C'est un bon résumé. C'est une façon presque de passer à côté. Je rappelle, Patricia, la préface que vous venez de signer pour l'ouvrage de William Newton, Versailles côté jardin. Alors on me signale dans le casque que nous avons le livre, mais si vous qui nous écoutez voulez-vous le procurer, il faudra encore attendre un petit peu puisqu'il ne sera disponible en librairie que jeudi prochain. Mais à partir de jeudi, vous pourrez vous y plonger et pas seulement dans la préface de Patricia. Et puis votre exposition donc, Fastes et grandeurs des cours d'Europe. Mais ça c'est à Monaco, c'est cet été et nous aurons le temps d'en reparler. Qu'est-ce qui, au mois d'avril, occupe actuellement les jardiniers de Versailles, Joël Cotin ?
Là, c'est les travaux de printemps, fin de printemps. Je rappelle qu'on a planté même plus de 100 000 bulbes. Donc là, nos floraisons arrivent.
Sort de terre.
Donc nous aurons trois séquences de floraisons là, qui vont s'animer dans le mois d'avril. Donc formidable. Je vous invite à les voir.
Si vous avez raté le coche de Pâques, il reste encore quelques beaux week-ends d'ici à la fin de l'année. Vous vouliez dire un mot des Japonais, Joël ? Des Japonais tellement éprouvés en ce moment.
Ben oui, j'ai une pensée pour eux, tout particulièrement pour nos amis... d'une société que je peux citer, je pense, Kubota, qui nous ont aidés beaucoup à la tempête. Et donc, nous, on pense beaucoup à eux en ce moment avec la douleur qu'ils ont eue.
Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. Et comme je dis souvent, vive Versailles.